Bonjour à tous. Gérard n'étant pas là, m'a donné la charge
de vous annoncer le message. Donc d'habitude, je vous dis souvent, quand je prépare des méditations ou des prédications, ça m'a fait du bien. J'ai été content de la préparer et de la partager. Celle que j'ai préparée aujourd'hui ne m'a pas fait du bien. Elle m'a amené beaucoup de tristesse. Le titre de mon message ce matin est « À table » et « Bon appétit ». La première lecture, nous allons la faire dans Marc 14, versets 6 et 8. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, je vais vous servir à table. Ne prenez que ce qui vous convient, uniquement ce que vous désirez. N'ayez pas les yeux plus grands que le ventre. Ne vous jetez pas sur l'entrée, car vous ne pourrez pas manger le reste. Prenez un petit peu de tout, et si vous n'aimez pas, ne mangez pas. Si c'est trop dur à avaler, ne mangez pas. Si c'est trop fade ou trop assaisonné, ne mangez pas. Que ce que je vous ai préparé ne soit ni indigeste ni avarié. Mais jugez ma cuisine selon un juste jugement. Et mangez ce qui est bon pour vous, non pas pour les autres, mais pour vous. Qui d'entre nous n'a jamais entendu cette voix qui vient de la cuisine dire « À table !» Les jeunes ont souvent entendu cette phrase-là. La première fois, c'est un souhait de la part de la mère ou du père qui prépare la cuisine. La seconde fois, c'est un conseil. La troisième fois, à table, c'est un ordre. La quatrième fois, c'est le désespoir. Et la cinquième fois, c'est le chacun pour soi. Et quand les convives viennent à table et qu'on voit que la maîtresse de maison a déjà commencé à manger, on peut lire dans son regard le désarroi, de temps d'attente. L'intonation de la voix démontrera à quel niveau l'on se situe. Dans la cuisine, la voix dit à table. Et dans les autres pièces, qu'est-ce qu'on peut entendre de la part de ceux qui se font attendre? J'ai pas faim. Ou j'ai pas fini ma partie. On mange déjà? Qu'est-ce qu'on mange? Oh, j'aurais préféré un McDo ou une pizza. Après toute cette attente de la cuisinière ou du cuisinier, les réflexions continuent de fuser. J'aime pas ça. C'est trop chaud. Ça manque de sel. T'as oublié les serviettes. Je veux pas m'asseoir ici. Moi, je veux prendre que du dessert. Imaginez un instant ce que doit encaisser celui ou celle qui s'est fait serviteur ou servante pour les gens de sa maison. La personne qui a fait le repas sera certainement la seule à desservir, la seule à faire la vaisselle, la seule à donner le coup de balai. Les autres penseront que c'est son rôle. Nous, on a autre chose à faire. Et elle n'a-t-elle pas d'autre chose à faire? Eh bien si, les courses, le ménage, le repassage, aller conduire le petit au club de foot. Quelle attitude avons-nous à l'égard de celui ou de celle qui se plie en quatre pour les autres? Dieu nous appelle à être serviteurs des uns et des autres pour un bien collectif, afin que l'harmonie règne. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait ce qu'elle a pu, a dit Jésus. Voilà pour l'entrée. On va continuer pour le cas de résistance. Nous venons de voir qu'il y avait deux camps, ceux qui servent et ceux qui se font servir. Malheureusement, ceux qui se font servir sont bien souvent trop nombreux, et ceux qui servent, pas assez. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 28, il est fait mention d'un père qui avait deux fils. Il leur demanda tous les deux de faire quelque chose. L'un dit, « Oui, je le ferai, et ne l'a pas fait. Le second dit non, je ne le ferai pas. Puis, pris dans sa conscience, il se repentit et alla faire ce que son père avait demandé. Lequel trouvera l'approbation? L'approbation de Dieu viendra sur nous par ce que nous faisons et non par ce que nous disons. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'il n'est pas parlé de celui qui dit ce qu'il fait ou qui fait ce qu'il dit. Il est vrai que le Père n'avait que 2 fils et non pas 3. Mais dans l'Écriture, nous avons un personnage qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Il s'appelle Jésus. Prenons exemple dans Jean, chapitre 10, verset 11. Jésus a dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ne l'a-t-il pas fait? Le secret du succès dans la famille, et je suis content de voir qu'il y a de la famille aujourd'hui, et dans les autres domaines, réside dans le fait de savoir quelle tâche, quel devoir y a-t-il à remplir et de le faire. La Bible est d'une richesse insoupçonnée en conseils relatifs aux relations avec les autres et aussi aux tâches qui nous incombent, tous. Ne serait-ce que prendre lecture des Épîtres, qui est riche d'enseignements. Dans les Proverbes, Dieu nous explique la place et l'importance qu'occupent les relations humaines. Dans le Cantique des Cantiques, Dieu nous donne un plan pour diriger les relations conjugales. Dans le deuxième livre de Timothée, Dieu nous montre comment vivre malgré un climat de déclin spirituel. Dans 1 Jean, Dieu nous indique comment nous pouvons rester en communion avec lui. Dans les Épîtres de Pierre, nous apprenons et nous comprenons pourquoi la souffrance peut s'abattre sur nous. Ces préceptes, les connaître, c'est bien. Les mettre en pratique, c'est mieux. Dans le livre du Deutéronome, nombreuses sont les fois où il est mis « mettre en pratique ». Entendre, comprendre et agir selon ce que Dieu dit nous permet de faire l'expérience d'un bien spirituel, mental et affectif. Par la même occasion, nous donnons de la dignité et une identité à notre prochain. Dans la famille, si tous recherchent à donner du bonheur à l'autre, il y aura dans cette famille de la cohésion, de la symbiose, de l'osmose, de la réussite et du bien-être. Le bien-être dépend de l'unité. Si je ne suis pas en paix avec mon prochain, il n'y aura plus d'unité. Les réalités spirituelles, lorsqu'elles sont mises de côté, conduiront à un manque d'unité et à la perte d'une identité. On avait déjà parlé de par le passé de l'identité. La désobéissance, la négligence, le désintérêt pour les valeurs bibliques, ou encore l'arrogance, l'égoïsme et l'individualisme ne donneront qu'une vie médiocre. Il est tout à fait normal d'être indigné devant l'indifférence, devant l'apathie morale de certaines personnes, devant le désintérêt pour les choses de Dieu, ou ne serait-ce que pour le désintérêt d'une personne pour une autre. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. À force de critiques, d'animosité, d'attitudes mauvaises, tiens-toi mieux à table, le manque de tenue, d'amour, de bienveillance, de respect vis-à-vis de notre proche et tout autant vis-à-vis de Dieu. Parabole du bon samaritain. Le pharisien, le lévite, passe devant le samaritain qui est couché au sol, roué de coups. Ils passent et ne font rien. Le bon samaritain, lui, prend soin de celui qui est couché. Il l'emmène à l'hôtel, l'héberge, lui donne à manger. Les autres parlaient de la parole, professaient la parole, mais ne la pratiquaient pas. On connaît les préceptes, la loi, mais notre vie est fade, médiocre, impropre à la consommation, et donc infecte. Ne nous étonnons pas si les autres ne trouve pas de saveur en nous. Il ne cherche pas notre compagnie. Qui voudrait d'un plein prix? Certains diront, qu'est-ce que le respect? Grande question. On ne l'a pas appris étant enfant. Ou alors, mes parents n'en avaient pas le témoignage. Mais ce qui est de l'enfant est passé. Nous sommes adultes. Et rien ne m'empêche d'apprendre. Peut-on se contenter des miettes qui tombent de la table? Peut-on se contenter dans notre vie, de chaque jour, ne se manquer que quelques versets de la parole de Dieu? Manger que des miettes ne suffira jamais. La disette n'est pas un plat consistant. On reste sur sa faim. Et quand il n'y a plus la disette, il y a la famine. Aussi bien dans le corps de Christ, quand chacun vaque à ses petites occupations, que dans le noyau familial, que dans le noyau conjugal, la disette amènera à la famine. Et la famine aura des conséquences sur la vie dans tous, et dans tous les domaines, et sur tout le monde. Durant la disette, on puise dans les réserves. Durant la famine, on peut puiser ce qu'il n'y a plus. Donc on se meurt. Il en est de même dans la vie spirituelle, dans la vie du couple, comme je l'ai déjà dit. La disette nous guette tous. La famine également. Quelle attitude devons-nous adopter par rapport à la famine? Spirituelle, avant tout. Jésus nous l'enseignait. Veillez, priez et portez du fruit. Marc 14, verset 6, toujours. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Lorsque l'on est blessé ou peiné par un frère ou par une sœur, par une personne que nous aimons, par une personne avec laquelle nous vivons, nous souffrons. Et bien que la vengeance pourrait être une solution, nous pardonnons. Qu'est-ce qui fait que nous pardonnons? Parce que c'est un commandement de Dieu. Et si nous obéissons à ce commandement, nous retrouverons la paix avec Dieu, mais aussi avec notre prochain, avec notre bien-aimé, avec notre enfant, avec notre père ou notre mère. À un moment de notre vie, nous aussi nous avons blessé. Et parfois nous pouvons récolter aussi ce que nous avons semé. Après tout, personne n'est parfait. Nous ne valons peut-être pas mieux que celui qui nous a offensés. Mais que penser de celui ou de celle qui n'a manifesté que de l'amour, de la bienveillance, de la charité, de l'affection, de la tendresse, du temps, des exhortations? Que penser de celui qui n'a pas mérité l'offense? Qui lui fera justice? Qui le consolera? Qui lui donnera raison? Un mal pour un mal, dans notre société, on passe, c'est normal. Mais un mal pour un bien, comment le comprendre? Comment l'expliquer? Nous le lisons dans le premier livre de Pierre, au chapitre 2, versets 19 à 20. Car c'est une grâce que de supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Difficile à comprendre cette parole. Et pour moi, difficile à encaisser, à avaler. Mais c'est la justice de Dieu. Ramener au niveau des hommes, c'est injuste. Mais ramener au niveau de Jésus, qu'est-ce donc? Il est concevable d'en vouloir à un homme pécheur, mais à celui qui est intègre. Quelle attitude! Je continuerai à piétiner cet amour, cette bonté, ou je me repentirai? J'irai trouver mon frère, ma sœur, et je lui demanderai pardon, où je continuerai dans ma voie de ténèbres. Le pardon. Pas le pardon qu'on dit à la légère. Excuse-moi, je t'ai fait de la peine. Ou je te demande pardon. Allez, un petit bisou et puis allez, tout est pardonné. Non. Le pardon qui nous rend humbles. Le pardon qui en coûte. Ce pardon qui nous fait comprendre que l'on a fait du mal. Le pardon qui fait que notre offense, bien que pardonnée par l'autre, changera notre vie, notre morale et notre attitude à l'égard de la victime, qui bien souvent, alors qu'elle a été blessée, devra pardonner ce qu'elle n'a pas mérité. Je parle de toutes les offenses. Il n'y a pas de petites ou de grandes offenses, comme il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Pour consoler ceux qui ont vécu cela, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi la mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. Matthieu 25, verset 44 à 45. Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité je vous l'ai dit, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. La parole de Dieu est claire et explicite. Le message de Jésus est tranchant et direct. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour Jésus, nous pouvons le faire pour celui qui est à nos côtés chaque jour. Mon époux, ma femme, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Si nous ne le faisons pas, c'est à Jésus que nous ne le faisons pas. Nous sommes appelés chrétiens. Et chrétien, étymologiquement, veut dire petit Christ. Ayons du souci pour tous ces petits Christ qui sont à nos côtés. Et faisons ce que Jésus nous a demandé de faire. Aimez-vous les uns les autres. J'espère que le plat n'a pas été indigeste. Difficile à avaler, trop assaisonné ou trop fade. Mais moi, ce plat, après l'avoir écrit, ben, j'étais pas dans mon assiette. Soyez bénis, frères et sœurs. Après avoir écouté, le seul conseil que j'aurais à vous dire, comme le dit le Deutéronome, mettez en pratique. Et votre vie changera. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, cette pensée que tu m'avais donnée déjà depuis un moment, je l'ai écrite, je l'ai transcrite, je l'ai mangée, j'en ai été nourri, je l'ai digérée. Seigneur, ce plat que tu m'avais donné, je me suis fait serviteur pour mes frères et sœurs. Que eux aussi, tout comme je l'ai fait, soient serviteurs de ceux qui sont à leur côté. Seigneur, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Amen.